France Inter.
Le journal Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Faudra-t-il un mort pour que les dirigeants du cyclisme réagissent? Question posée ce matin dans le peloton après cette terrible chute hier sur le Tour du Pays Basque. Le double vainqueur du Tour de France, Vingegaard, souffre de plusieurs fractures. Certains dénoncent la recherche de vitesse et de performance à tout prix. Il était le principal accusé au procès de l'attentat de Strasbourg en l'absence de l'assaillant. Audrey Mongei, condamné hier soir à 30 ans de prison. Vous entendrez des victimes soulagées par ce verdict. Dans ce journal, nous serons aussi en Russie. C'en est déjà fini là-bas des hommages deux semaines après les attaques terroristes en banlieue de Moscou. Des frais de transport multipliés par 4, les tensions en mer Rouge se font désormais clairement ressentir chez les importateurs français. Et le plus célèbre scooter de France, celui de François Hollande à l'Elysée, bientôt vendu aux enchères.
À 7h50, on parle de cannabis et économie dans le débat éco. Alors que l'Allemagne vient d'assouplir sa législation sur le sujet, légaliser pourrait-il être bénéfique à l'économie, aux finances publiques? Éléments de réponse avec Thomas Porcher et Dominique Seux.
France Inter.
Les images hier en fin d'après-midi nous ont glacé le sang, Alexis.
Oui, ses concurrents du Tour cycliste du Pays Basque, pris dans une chute comme dans un jeu de quilles. 8 coureurs violemment envoyés dans le décor entre des blocs de pierre. Parmi eux, des stars du peloton. On a des nouvelles ce matin, presque rassurantes, oserait-on dire, vu les circonstances. Le bilan se limite à des fractures, à la clavicule et aux côtes pour Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France, à l'omoplate pour Remco Evenepoel, aux vertèbres pour l'Australien Jay Vine. C'est lourd, mais ça aurait pu être bien pire. C'est en tout cas, Fanny Lechevestrier, une nouvelle alerte dans un sport qui va de plus en plus vite.
Je suis pas du tout serein. Dès que j'allume la télé, dès que je regarde une course de vélo, il y a des chutes.
Cette réaction inquiète, c'est celle hier soir de Thierry Gouvenou, ancien coureur cycliste et aujourd'hui le directeur de Paris-Roubaix.
Je pense qu'on est dans un moment de crise et qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table et trouver des solutions.
Des solutions pour mettre fin à une course effrénée au record de vitesse, sans forcément condamner tous les coureurs, pointe bien sûr l'évolution du matériel, décrit le nordiste Adrien Petit.
Tout le monde est à la recherche de performance. Les braquets maintenant qui font qu'on roule 5 km plus vite que d'habitude.
Alors limiter les braquets pour plus de sécurité. Beaucoup stigmatisent aussi le comportement des coureurs. Un comportement qui a changé, a écouté le champion de France Valentin Madouas.
Le peloton il s'est rajeuni. Il y a une pression qui est très forte sur les coureurs avec des équipes qui se professionnalisent à bloc. Et donc il y a plus de tension.
Jusqu'à jouer des coudes pour gagner sa place, dénonce Cédric Vasseur, le manager de la formation Cofidis.
Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de sanctions pour des comportements incorrects et dangereux. Parce que quand vous mettez 20 coureurs par terre, bah vous méritez quand même une sanction assez forte.
Mais fataliste, un autre patron d'équipe nous confiait la semaine dernière, peut-être que les instances internationales réagiront quand il y aura un mort.
Et dans 2 jours, le Paris-Roubaix avec cette année pour ralentir la course à l'approche de la trouée d'Arenberg. Une nouveauté, une chicane, une initiative qui divise cependant le peloton. Il venait de sortir de son collège à Viry-Châtillon quand plusieurs agresseurs l'ont passé à tabac. Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort ce matin dans l'Essonne. Le maire de la commune parle d'un déchaînement d'ultra-violence. Et cette nouvelle agression survient 2 jours après celle dont a été victime Samara, 13 ans, à Montpellier. Des inspecteurs de l'éducation nationale sont attendus aujourd'hui dans son établissement. C'est la mission flash annoncée par la ministre Nicole Belloubet pour tenter de comprendre l'enchaînement des faits. On va y revenir dans le journal de 8h. Dans les Deux-Sèvres, 2 mois après la disparition d'Erwan, 18 ans, à la sortie d'une boîte de nuit, un corps a été retrouvé hier dans une rivière, tout près de là. On a aussi découvert dans ses vêtements des papiers au nom de l'étudiant. Pour les juges, ils savaient qu'un projet criminel était en préparation. Le principal accusé du procès de l'attentat de Strasbourg est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté pour les 2/3. Audrey Mongei, reconnue coupable d'avoir aidé le terroriste Cherif Chekat à se procurer l'arme. Le 11 décembre 2018, cette attaque contre le marché de Noël de la capitale alsacienne a fait 5 morts, 11 blessés. Chekat est mort 2 jours plus tard, abattu par les forces de l'ordre. Ce matin, Charlotte Pirel, les parties civiles se disent soulagées.
C'est entouré de ses 3 enfants que Saga, réfugiée afghane, est venue assister au verdict. Eux qui étaient partis en famille se promener sur le marché de Noël. Eux qui ont vu s'écrouler sous leurs yeux leur père et mari, victimes d'une balle du terroriste. Eux qui ont tenu à être présents à ce procès.
Il y a beaucoup d'émotions, vraiment. C'était dur pour nous, vraiment. Cette période, 1 mois et demi à peu près, c'était vraiment trop dur pour moi, pour les enfants. Mais Maintenant, je suis content et je peux continuer ma vie.
Mostafa a lui aussi été assidu à cette audience. Il est un peu sonné après le prononcé de cette décision.
Je pense qu'elle était juste.
Ce chauffeur de taxi pris en otage par le terroriste après son périple meurtrier espère désormais pouvoir continuer à avancer.
Il faut déjà se reposer, réfléchir et commencer à travailler sur un projet professionnel, de travailler sur d'autres choses pour pouvoir avancer et passer ce cap.
Mais 30 ans de réclusion criminelle auxquels ont été condamnés le principal accusé fait aussi craindre aux victimes la perspective d'un appel de cette décision et donc d'un deuxième et douloureux procès.
Justice a été rendue, commente ce matin la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseguian, qui dit espérer que ce verdict contribue maintenant au travail de deuil. Le deuil et les hommages, quasi inexistants, invisibles en tout cas en Russie, 2 semaines seulement après l'attentat contre une salle de spectacle près de Moscou, 144 morts revendiqués par le groupe État islamique. Le pouvoir s'échine pourtant à désigner l'Ukraine et derrière elle les Occidentaux comme les commanditaires de cette attaque. Mais en termes de commémoration, c'est le service minimum. France Inter à Moscou, Sylvain Tronchet.
2 semaines après la tuerie du Crocus, il ne reste que des monceaux de fleurs posés à même le sol et quelques rares personnes qui passent sur le parking dans cette banlieue de Moscou, comme Elena, qui habite juste à côté et qui, elle, vient tous les jours.
Les premiers jours, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il n'y a plus que les gens qui passent pour faire une course.
Les autorités ont organisé 2 cérémonies sur place. L'une rapidement le surlendemain de l'attentat, l'autre 9 jours après, comme le veut la tradition orthodoxe. Mais rien de solennel, pas d'hommage national. Et surtout, aucun officiel russe de premier plan ne s'est rendu sur place. À commencer par Vladimir Poutine. Impossible pour le politologue russe en exil, Dmitri Orechkin.
Poutine est le soleil. Poutine est celui qui nous protège des agressions. Il ne doit pas être filmé dans un lieu associé à des problèmes.
Les médias russes ne parlent plus de l'attentat que pour évoquer ses commanditaires désignés par le Kremlin, l'Ukraine et les Occidentaux. La télévision a monté à la va-vite une émission d'hommage où un pop orthodoxe en plateau délivrait ce message.
Nous sommes tous unis aujourd'hui et nous devons nous unir, être courageux ensemble, parce que nous sommes attachés à notre patrie. Soyons ensemble et ensemble, nous nous en sortirons, mes chers amis.
Rester unis, en clair, ne pas poser de questions sur l'attentat, ses commanditaires ou l'échec des forces de sécurité. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
7h37, Joe Biden durcit clairement le ton à l'égard d'Israël.
Le président américain a eu le premier ministre israélien hier soir au téléphone et pour la première fois, il a semblé conditionner la poursuite de l'aide américaine à l'État hébreu à des actions immédiates en faveur des civils à Gaza. Jusque-là, le soutien de Washington était inconditionnel, ce qui valait d'ailleurs de nombreuses critiques à Biden, y compris dans son propre camp. Dans la foulée, Israël annonce ce matin une augmentation temporaire de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Parmi les conséquences de ce conflit, les tensions en mer Rouge, ces attaques perpétrées par les Houthis du Yémen, alliés du Hamas, contre des navires marchands. Beaucoup d'armateurs évitent désormais ce passage, pourtant stratégique, avec un impact très concret ici en France. Délais de livraison rallongés et coûts du transport maritime en train d'exploser. Faustine Calmel l'a constaté auprès d'un importateur de matériel pour chantier en Seine-et-Marne.
L'entrepôt de Frédéric Mercier, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, manche, pioche et barrière stockée du sol au plafond.
La partie métallique, on a des tréteaux bois, les fameux enrouleurs, donc c'est les cartons qui sont là-haut.
Chargés sur un conteneur maritime en Chine, ils ont contourné l'Afrique par le sud au lieu de passer en mer Rouge, trop dangereuse. Commandés en octobre, ils sont arrivés en février.
Donc j'étais en rupture pendant 2 mois. Et puis en 2 mois, pour le coup, c'est du cuivre, un enrouleur électrique. Le cours bouge beaucoup. Ça se trouve, vous êtes super bon parce que vous avez bien acheté. Puis ça se trouve, vous êtes aux fraises. On joue à la bourse.
Et ça n'est pas le seul souci dans les factures.
Sans le vouloir, vous voyez, ça c'est un conteneur qui est arrivé il y a 1 mois.
Le coût du transport a été multiplié par 4 depuis cet automne.
Ça c'est du plus. $800, on passe à $3 700. Ça impacte les prix de revient, évidemment. Il faut bien passer quelque part.
Et donc augmenter les prix de vente si ce conflit, auquel Frédéric Mercier l'avoue, il ne comprend pas tout, dure encore plusieurs mois.
On ne connaît pas bien les raisons. Enfin, c'est vrai que ça nous paraît loin d'ici. C'est un petit conflit comme il y en a des centaines dans le monde, mais finalement, ça nous impacte, nous, directement.
Pendant la pandémie de Covid-19, les prix avaient été multipliés par 10 avant de retrouver un niveau d'avant-crise l'an dernier, un répit de courte durée.
Et cette embolie en mer Rouge a aussi des conséquences sur les cours de certaines matières premières, notamment le café qui pourrait bientôt nous coûter bien plus cher. En particulier une variété, le Robusta, il atteint des sommets. Ça s'explique aussi et surtout Agnès Soubiran par des problèmes de production.
Plus de 3600 euros la tonne, du jamais vu. Les prix ont tout simplement doublé en un an. On parle ici du Robusta, variété réputée un peu plus amère et puissante, utilisée seule ou mélangée avec de l'arabica et que l'on retrouve dans les expressos et le café soluble. Une envolée des prix qui s'explique de différentes manières, comme la baisse de production au Vietnam, plus grand exportateur de Robusta au monde, mais de mauvaises conditions météo et notamment le manque d'eau ont entraîné une baisse de 20% de la production, ce qui pousse les agriculteurs à se tourner vers d'autres cultures comme l'avocat et le fruit de la passion. Enfin, les réserves au niveau mondial sont au plus bas, ce qui favorise la spéculation. Seul élément positif, la production d'arabica qui, elle, est en hausse avec des prix du coup qui reculent de 20% environ, ce qui devrait inciter les torréfacteurs à modifier la composition de leur mélange.
Quant aux produits agricoles en France, faut-il leur appliquer des prix planchers? Débat ouvert par la colère paysanne. Eh bien, l'Assemblée a dit oui hier soir, feu vert à une proposition de loi écologiste contre l'avis du gouvernement.
Et c'est le début ce soir des vacances pour la zone C.
Oui, notamment les franciliens. Bison futé s'attend à un trafic chargé en Ile-de-France. Drapeau orange dans le sens des départs. Et pour éviter les bouchons, vous êtes peut-être adepte du scooter. Dans ce cas, cette petite annonce pourrait vous intéresser. Un deux roues sera vendu aux enchères le mois prochain en Touraine. Mais pas n'importe lequel. L'ancien scooter de François Hollande, président. Le célèbre engin qui lui avait permis de rejoindre incognito Julie Gayet à quelques rues de l'Élysée. Et pour faire monter les prix, Fabienne Joigneau, les vendeurs s'en donnent à cœur joie.
Les commissaires-priseurs de la maison d'enchères Rouillac se mettent même en scène sur l'engin, sur fond de drapeau tricolore, et retracent les folles aventures du scooter de l'amour, comme ils l'appellent. Ce deux roues Piaggio gris, trois roues, 125 cm3, 34 000 km, a déjà plusieurs fois changé de main depuis qu'il a été vendu par l'Élysée en 2015. Les derniers propriétaires sont un couple qu'il avait acheté pour fêter ses noces d'or et à qui l'ancien élu de Corrèze avait fait une dédicace à Patrick et Manola qui ont eu la chance d'enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Mise à prix 10 000 euros quand même, c'est bien plus cher que ce que vaudrait normalement un engin de ce type dans la vraie vie. Mais on ne parle pas d'un scooter normal, même si François Hollande revendiquait d'être un président normal.
Voilà, et si vous êtes tenté pour rejoindre un amant ou tout simplement pour aller au boulot,
il y a une dose.
La vente est prévue le 26 mai.
Dominique Seux, comment
on va y penser.
En vélo électrique.
J'ai déjà
en vélo électrique.
Monter les enchères.
C'était le journal d'Alexis Morel. À suivre, protéger la liberté éditoriale des médias, une proposition de loi écologiste dans l'édito politique.